Bac FM, il est 10h30, je suis avec Marie. On est parti pour Action, votre rendez-vous ciné du mercredi matin. Sortez les popcorn, jingle.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.
Et un beau programme encore aujourd'hui avec les sorties ciné de cette semaine, bien sûr, le blockbuster Black Adam avec Dwayne Johnson, le retour de Belle et Sébastien, Jamel Debbouze qui reprend Pierre Richard et Leonard Cohen. Alors si vous ne savez pas qui c'est, on en reparle tout à l'heure dans les sorties ciné. Marie nous sort son film du grenier en fin d'émission. Et puis dans quelques minutes, on fête l'anniversaire de qui, Marie ?
De Michael Gambon.
Et bonjour d'ailleurs aussi.
Bonjour Théo.
Je ne t'ai pas salué. Les dernières rumeurs ciné aussi avec notamment Martin Scorsese qui prépare une série adaptée de son film Gang of New York, le son pop rock aussi avec Imagine Dragon et Gail, mais pour l'heure on revient sur les chiffres du box office de la semaine en France, un petit peu de changement aussi, un bon démarrage pour les films français sortis mercredi dernier. Alors dans ces films on avait parlé du petit Nicolas, le retour du célèbre personnage de Sampé et Goscinny, c'est justement dans cette version originale du petit Nicolas qu'on les voyait eux donc en version animée mettre naissance à leur petit bonhomme et ses aventures. Alors un film animé coloré pour toute la famille qui accumule 75 000 entrées pour sa première semaine. C'est pas mal étant donné la grosse concurrence de cette semaine et c'est toujours à l'affiche du ciné Mazarin.
Dis donc, il est marrant lui, c'est qui ?
Nicolas. Ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux ?
Toi, tu lui écris des histoires, moi je les illustre.
Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas.
Oh, c'est chouette !
Je sens qu'on va bien rigoler.
Tu sais ce qui lui manque ?
On va lui inventer des copains à notre petit bonhomme.
Et ça va pas la tête ? C'est une fille ! Ah ! Des bêtises ! C'est chouette, ça ! Qu'est-ce qu'on se marie !
Mes meilleures idées me viennent comme ça, en rêvassant, comme quand j'étais môme.
Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser.
Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar ?
Je me vais prendre en photo comme ça ou pas du tout ?
Écris-moi une nouvelle histoire.
Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Avec les voix d'Alain Chabat et Laurent Lafitte, c'est la 11e place du box-office français. Et puis Halloween arrive à grands pas, l'occasion parfaite pour les adeptes de foncer au cinéma, voir les films d'horreur épouvante qui vous sont proposés. C'est d'ailleurs ce que font déjà de nombreuses personnes, étant donné que Smile et Halloween End sont tous les deux les 5e et 6e places du box-office français. Alors Smile perd 3 places par rapport à la semaine dernière, c'était le 2e du box-office, mais ça prouve quand même l'engouement que provoque ce style de film et le retour de la série de films aussi Halloween avec Jamie Lee Curtis. Autre film sorti la semaine dernière qui fait un bon démarrage, c'est le nouveau film de Louis Garrel avec à l'affiche Roche Dizem, valeur sûre du moment parce qu'il est aussi à l'affiche, alors c'était il y a plusieurs semaines, mais avec Virginie Efira, un thriller familial, un braquage organisé, puis surtout une relation entre le fils et le beau-père assez compliquée. Louis Garrel, réalisateur, speech le film, ça s'appelle L'Innocent.
Le film L'Innocent raconte la vie de Sylvie, qui a à peu près 60 ans, qui va se marier avec un homme qu'elle a rencontré en prison. Et le film, les problèmes du film commencent au moment où le fils de Sylvie a pas l'air d'être très optimiste quant à l'avenir de ce mariage. Je pense qu'au tout début, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien m'amuser à faire ce que maintenant il est communément admis d'appeler un film de genre de braquage. J'avais envie de faire un film pas policier. Je sais que j'avais pas envie de raconter des. Il y a pas de policiers dans le film. D'ailleurs, on les voit très succinctement. Je voulais pas raconter des policiers. J'avais envie de faire un film de braquage et que ça soit un braquage qui se passe à l'intérieur d'une famille. Enfin, que ça soit un élément qui soit pas d'une famille et que le frottement comme ça de deux mondes qui se connaissaient pas et qui avaient rien à voir à un moment donné fabrique une aventure, quoi, picaresque.
L'innocence est numéro 4 du box-office français avec 20 000 spectateurs en 7 jours et c'est toujours à l'affiche de votre ciné Mazarin. Le podium du box-office français, eh bien il est 100% français, Cocorico. Le numéro 1 de la semaine dernière, novembre, avec Jean Dujardin est passé deuxième mais progresse toujours. Il gagne 440 000 entrées, un cumul de 1 033 000 entrées juste devant la sortie comique Aventure de la semaine dernière, le premier film de Malik Bentala qui nous propose les aventures de Jack Mimoun et les secrets de Valverde. Alors mi-parodie, mi-aventure, c'est drôle, c'est burlesque et il attire 265 000 entrées en une semaine seulement. Extrait.
Je m'appelle Jack Mimoun et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Vous regardez Jack Mimoun, le survivant de l'enfer. Coupez les gars, coupez.
C'est le bal des incapables là-dedans.
Monsieur Mimoun, j'adore votre émission, je suis une vraie fan.
Ça ressemble pas à un héliport là, vous êtes sûr qu'on est au bon endroit ?
Vous inquiétez pas, on est attendu.
Bon alors ce qu'on va faire, on va procéder à la fouille et puis je vous emmène à l'hélicoptère.
Aïe, non.
Quoi ça va ? À vous ?
Vous ne me touchez pas.
Fouillez-vous ?
Pardon ?
Fouillez-vous vous ?
C'est un malade.
On va pas monter là-dedans.
Il a fait 6 guerres cet hélico, d'accord ?
Toute ma vie j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. C'est un aventurier. Il y a 20 ans, mon père s'est envolé pour une destination inconnue. Et depuis, il n'a plus donné aucun signe de vie.
Attention !
C'est pas lui que je cherche. C'est ce qu'il était venu chercher ici.
On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait la gourmandise.
Oh, allez !
C'est un cauchemar, je vais me réveiller.
Moi aussi, il m'est arrivé des trucs. L'appendicite et j'ai douillé.
Vous n'étiez pas couvert par une mutuelle ? Il y a des fausses économies, ça. Parce que quand ça cogne, ça cogne. Hein.
Chez vous, les mots sortent comme ils peuvent, quoi. Vous contrôlez rien, j'ai l'impression, non ?
Jack Mimoun et les secrets de Valverde avec Malik Bentala, le très drôle Jérôme Commandeur, François Damiens, Joséphine Japy et Benoît Magimel. Il nous manque plus qu'à voir le numéro 1 du classement de la semaine de ce box-office français. Et puis c'est sans surprise que c'est le biopic sur Simone Veil. 480 000 entrées en une semaine. Elsa Zinberstein et Olivier Dahan dans cette interprétation réussie qui rassemble tout public pour voir l'histoire de cette femme d'exception. À mon avis, ce sera toujours le numéro 1 la semaine prochaine à suivre. Imagine Dragon arrive dans quelques minutes, juste après. Marie, qui souhaite l'anniversaire à qui aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Michael Gambon, qui fête ses 82 ans. Donc le nom de cet acteur britannico-irlandais ne vous dit peut-être rien, mais vous le connaissez forcément si vous avez vu les films Harry Potter. Car oui, Michael Gambon est l'interprète du plus célèbre directeur de Poudlard, Albus Dumbledore. Personnage adoré par certains pour son côté sage et bienveillant, il en a déçu d'autres à cause des révélations sur lui dans le dernier film de la saga magique. Mais revenons un peu sur la carrière de cet interprète, qui est un grand homme de cinéma, mais aussi un grand homme de théâtre. On verra donc Michael Gambon pour la première fois à l'écran en 1965 dans Othello de Stuart Berg, une adaptation filmée de la pièce de Shakespeare dans laquelle l'acteur n'a qu'un petit rôle. On le retiendra davantage pour son rôle dans Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant de Peter Greenaway, sorti en 89. Donc dans cette farce classique où les relations des personnages se font et se défont, il incarne ici un de ses premiers rôles principaux puisqu'il joue le voleur du titre. C'est à peu près à la même époque que Michael Gambon sera élevé au rang de commandeur de l'ordre britannique, un titre de chevalier honorifique, mais pas son seul titre de noblesse, on le revient juste après. Donc en 92, il joue dans le film Toy de Barry Levinson, un film plutôt destiné pour le coup à un jeune public, et il y incarne un vétéran de l'armée qui hérite de l'usine de jouets de son frère décédé. Il décide donc de la transformer en une usine d'armes hors normes, donc des poupées mitrailleuses, des peluches robotueuses,
oula,
ce genre de choses, des mini-chars avec de vrais missiles. Et il sera confronté à son neveu et sa nièce qui tenteront de l'en empêcher. Si auparavant il avait des rôles plutôt gris avec une morale assez nuancée, ici il est totalement assumé comme le vrai méchant de l'histoire.
Donc il coupe complètement de son rôle de Harry Potter en fait.
Tout à fait, après Harry Potter c'est arrivé que plus tard, mais là c'est très très différent. Ça reste pour un public assez jeune, mais là il joue le
rôle du méchant.
Le gros méchant, c'est ça. Donc après cela, il jouera dans Sleepy Hollow de Tim Burton, sorti en 99. Dans cette reprise de la légende du cavalier sans tête, on suit une enquête sur de mystérieux meurtres commis dans un petit village. Michael Gambon joue le rôle du père d'une des héroïnes principales, mais pas que, son rôle est plus important dans le film. Mais en dire plus serait vous dévoiler la fin de l'intrigue, donc je m'abstiens. Quelques années avant ce film, en 97, Michael est fait chevalier par la reine Elisabeth II, un titre dont il est très très fier, puisqu'à partir de là, il se fera appeler Sir Michael Gambon.
Ah oui.
Tout à fait. Et on en vient rien que ça. Et on en vient donc au moment où, en 2004, il apparaît en tant que Albus Dumbledore dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il n'apparaît que dans le troisième volet de la saga.
C'est vrai qu'on le voit pas dans le 1 et le 2.
C'est ça, car avant cela, c'était Richard Harris qui tenait le rôle du directeur. Mais ce dernier étant décédé en 2002, il n'a pas pu assurer la suite, évidemment, et il a fallu lui trouver un remplaçant. Et c'est finalement Michael qui fut retenu. Bien que Christopher Lee, alias Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, a également été envisagé pour le rôle.
Et je sais pas si ça se voit d'ailleurs que c'est pas le même acteur.
Ça se voit pour les personnes qui font attention, mais en soi avec le maquillage ça...
Ouais, parce que j'ai pas souvenir de...
Ça fait pas une très grande différence, c'est surtout dans le costume qu'il est différent, et un peu peut-être dans la façon d'agir, parce que bien sûr on pouvait pas reprendre...
L'interprétation, ouais.
C'est ça, on pouvait pas reprendre à 100% ce que Richard Harris faisait. Donc Michael Gambon incarnera ensuite le puissant sorcier durant tout le reste de la saga et devenant ce personnage culte que nous connaissons tous. Ensuite, plus récemment, vous avez pu le voir dans une saga qui fait beaucoup de bruit en ce moment et qui est Kingsman. Donc on a pu le voir dans Kingsman, le cercle d'or de Matthew Vaught, sorti en 2017. Donc il n'était pas présent dans le premier, car en 2007 il incarne Arthur, le chef de la célèbre agence de services secrets. Bien qu'il ne l'incarnera pas longtemps, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. On arrive donc à la fin de cette rubrique anniversaire où l'on a retracé la carrière de ce grand homme qui, on peut le dire, nous a tous donné envie de devenir sorcier un jour, un moment dans notre vie.
Merci Marie.
Merci à toi.
Qui, comme tous les mercredis, souhaite magnifiquement l'anniversaire d'une célébrité du cinéma. Et j'en suis sûr, bonus écoute, grâce à toi, et relativise sur son année de plus.
C'est évident.
On te retrouve tout à l'heure pour le film du grenier, les sorties ciné et les dernières rumeurs. C'est ce qui arrive juste après Imagine Dragon sur BacFL. Sur BacFM, pardon. BacFL, ça n'existe pas. Ça s'appelle Bones. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Walking the past so many, paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? I got this feeling in my soul. Vous avez choisi d'écouter Bac FM et vous avez raison, je m'appelle Théo, je suis avec Marie, on parle ciné ensemble. Et on parle ciné, ouais, les sorties de la semaine d'aujourd'hui, des films disponibles dans votre ciné Mazarin à Nevers. Et on commence avec Bro, B-R-O-S, une comédie romantique d'1h55 réalisée par Nicolas Stoller. Alors un film qui met un coup de pied aux fesses pour parler poliment et qui casse les clichés de la comédie romantique formatée. Car Bro, ça raconte l'histoire en fait de deux hommes gays. L'un est animateur de podcast, l'autre est avocat. Et ils sont effrayés par l'engagement, mais ils tentent de nouer une relation amoureuse. C'est avec Billy Eichner, c'est avec Luc McFarlane, et plus généralement, c'est avec un casting 100% LGBT, c'est pour ça que je dis que ça met un coup de pied aux fesses. Un film qui casse les codes, et rien que pour ça, on lui souhaite le succès. À chaque semaine, son blockbuster, et c'est Dwayne Johnson, alias The Rock, qu'il incarne cette semaine. Alors il y joue le rôle de Black Adam, sorti de prison après 5 millénaires enfermé. Il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Il refuse de se rendre. Ted Adam, donc, doit affronter une bande de héros d'aujourd'hui qui composent la Justice Society. Oui, Justice Society, Society, c'est l'accent anglais, c'est comme vous voulez, c'est en option des fois, qui compte bien le renvoyer en prison pour l'éternité. Extrait.
Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Mes pouvoirs ne sont pas un don, mais une malédiction. Ils sont nés de ma rage.
Il faut enfermer ce danger public, avant qu'il ne blesse des innocents.
Cet homme a dormi pendant 5000 ans.
Trouvez-lui une prison capable de le retenir et nous on se charge du reste.
Qui est dans l'équipe ?
Nous sommes la Justice Society. Black Adam.
Nous sommes venus négocier votre capitulation pacifique.
Je ne capitule jamais. Et je ne suis pas pacifique.
C'est parti.
Je ne m'incline devant personne.
Vous n'êtes pas venu en quête de justice, mais par soif de vengeance.
Je n'ai jamais prétendu être un héros.
Tu penses n'avoir aucune valeur, mais le destin ne se trompe jamais. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver.
Black Adam, c'est au ciné Mazarin depuis aujourd'hui. Reprise en main, c'est le film politique de la semaine avec Pierre Deladon, Chant, Laetitia Doche et Grégory Montel. Pour ceux qui connaissent pas Grégory Montel, c'est celui qui joue un agent de star dans la série 10% sur France 2. D'ailleurs, petit aparté, la série normalement va revenir prochainement. Affaire à suivre ici, il y joue un ami proche de Cédric. Cédric qui, comme son père avant lui, travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d'investissement. Épuisé d'avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible, racheter l'usine en se faisant passer pour des financiers. Un film qui est plutôt réaliste et qui mélange humour et authenticité. C'est un film aussi également qui est très très salué par la presse. Et puis deux films pour la famille maintenant qui ont eu droit à leur avant-première dimanche au ciné Mazarin. Le premier est une histoire célèbre, celle de Belle et Sébastien qui a le droit à une version plus générationnelle. On y voit des références aux réseaux sociaux, des nouveaux dialogues, mais toujours la même histoire, bande-annonce.
La mère de Dimitri veut plus t'emmener en vacances avec eux.
Dis-lui que je serai hyper sage, promis.
Non mais t'as déjà promis. Et on voit le résultat.
Je peux pas emmener Seb avec moi, là. Et je me demandais si...
Mais grave qu'on le prend.
Tu pourrais demander à maman, quand même.
Oui, oui, je vais demander, mais je sais, ça va pas la gêner.
Merci.
Super.
Hey, arrête-toi.
Les brebis, tu les ramènes ici. Tu vois pas qu'elle se fiche de toi, là ? C'est quoi, ce chien ?
Purée !
Elle est imprévisible, cette chienne.
C'est un chien dangereux, ça !
Elle est pas faite pour ça, elle a bien de gros espaces.
Belle !
Elle est où ?
Attends, j'arrive !
T'es courageux et t'as mauvais caractère. T'es un vrai berger.
Elle est tchèque. C'est pour mon enfant.
Ça intéresse quelqu'un, un chien qui mange?
Vous êtes au courant pour ma chaîne?
Je te jure, c'est pas nous.
Belle et Sébastien avec Michel Larocque, Robinson Mensah-Rouanet dans le rôle de Sébastien et Alice David. L'autre film, Tout Public, c'est une sorte de remake, de réadaptation d'histoires déjà connues. Rappelez-vous, en 1976, Francis Weber réalisait Le Jouet avec Pierre Richard, Michel Bouquet et Fabrice Greco, l'histoire d'un homme qui devient le jouet d'un enfant pourri gâté, celui de son patron. Aujourd'hui, le film est remis en lumière, mais les acteurs changent. Le jouet, c'est Jamel Debbouze, l'enfant est joué par Simon Falluy, qui a pour père dans le film Daniel Auteuil. Alice Bailaidi a également une place importante dans la nouvelle version de ce film. Ça s'appelle Le Nouveau Jouet, et justement, ceux qui forment un couple dans le film nous en parlent.
C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est très malheureux parce qu'il a perdu sa maman, qui vit avec son papa qui est milliardaire et qui n'a plus le goût à rien, jusqu'au jour où il va dans un grand magasin choisir un jouet comme son père lui a demandé, et il tombe sur Samy, joué par la personne. Il va décider que ça sera son jouet, il va l'emmener chez lui et il va s'en servir comme un jouet. Pouvoir camper ce personnage-là après eux, c'est une chance incroyable et une grande fierté.
Il y a toujours un peu de nous quand on joue un personnage, mais peut-être de la sincérité, de l'entièreté de mon côté, une façon d'embrasser les choses pleinement une fois qu'on est investi dans quelque chose. Ça peut me ressembler un peu en écho au personnage que je joue.
Juste pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, c'est vrai que moi j'avais une idée d'Alice à travers les personnages que j'ai pu voir. Cette force de caractère qu'elle peut avoir elle dans la vie, je l'ai retrouvée dans son personnage. Donc je suppose qu'on fonctionne tous de la même manière. On met un max de nous tout en gardant la distance qu'il faut pour pouvoir être en décalage. Mais j'ai l'impression que pour être juste comme elle l'a été, en tout cas, il a fallu qu'elle donne beaucoup d'elle, qu'elle soit au plus proche d'elle. C'est ce que j'ai fait aussi.
Le Nouveau Jouet, c'est au ciné Mazarin depuis aujourd'hui. Foncez le voir en famille. On termine les sorties ciné en musique. Et rappelez-vous de Leonard Cohen. Alléluia. C'est une des chansons les plus mythiques de l'histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen signe chez Columbia et devient une légende. Mais sa carrière, elle prendra un tournant inattendu. Découvrez l'histoire grâce à ce documentaire de Daniel Geller et Dinah Goldfein qui l'amènera à se reconstruire car ruiné par des profiteurs de l'industrie musicale et à s'affirmer comme l'un des artistes les plus importants de notre époque, notamment grâce à ce titre, Alléluia. Alléluia, les mots de Leonard Cohen, c'est une des sorties au cinéma que je viens de vous présenter. Voilà pour les sorties ciné, puis des rumeurs circulent également. Alors je vous en donne 2-3 avant de retrouver Gaël pour le son et Marie pour le film du grenier. Avatar 3 qui serait prévu pour décembre 2024. Marie, qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense que d'avoir, même en rumeur, ne serait-ce qu'une date, ça rassure un peu parce que depuis le temps qu'on l'attend, ce Avatar...
Et puis ça change aussi d'Avatar 2 qui sort 13 ans après le premier, et là maintenant ça ferait que 2 ans après
le dernier
en fait.
Ça serait sympathique d'avoir une attente quand même beaucoup moins longue.
Liam Neeson qui serait de retour dans Naked Gun aussi. Martin Scorsese qui adapterait son film Gang of New York en série. Alors Gang of New York, je sais pas si tu l'as déjà vu.
Pas du tout,
bon ce sera l'occasion
de le découvrir.
Et Marvel qui va consacrer un film à leur célèbre personnage Groot.
Ça me surprend pas tellement au final, puisque Groot est devenu un personnage très très populaire chez Marvel depuis Les Gardiens de la Galaxie. Et qui table là-dessus, ça me surprend pas.
Et puis ce sera l'occasion de voir quelle histoire ils peuvent mettre autour de ce personnage. Dans quelques minutes, Marie vous ressort son film du grenier qu'elle vous donne, ou redonne envie de voir. Halloween approche, quelque chose me dit qu'elle va nous donner les frissons. Mais juste avant, Gaël, vous êtes sur BAC FM.
Fuck!
like you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's what you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, so let me spell it out. A, B, C, D, E, F. You and your mom and your sister and your job and your broke ass car, and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above me. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. You call our fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can now fuck off.
Gaël sur Bac FM, vous êtes dans Action, votre rendez-vous cinéma du mercredi matin. Et Marie, tout de suite, va nous replonger dans un film. Elle vous donne envie de le voir ou le revoir. Ça s'appelle Le film du grenier.
En effet, Halloween se rapproche de plus en plus, ce qui signifie que nous allons approfondir un peu le thème de ce mois. Après avoir parlé d'un film délirant puis d'une comédie d'horreur, parlons d'un vrai film d'horreur entre guillemets. Parlons d'Esther juste après la bande-annonce.
Adopter un enfant déjà grand n'est pas une décision facile à prendre.
Moi, je m'appelle Esther.
Pourquoi tu descends pas faire la fête?
Je ne vois pas l'intérêt de faire la fête. Je suis pas comme les autres.
Il n'y a rien de mal à ne pas être comme les autres. Il m'a semblé que le courant passait.
C'est votre maison?
C'est aussi ta maison.
Tu fais autant partie de cette famille que Dani et Max.
Voici notre nouvelle élève et j'aimerais que vous fassiez tout pour qu'elle se sente bien avec nous.
Laura Ingalls veut récupérer sa robe.
Esther,
il s'est passé quelque chose pour qu'Esther le ressente à ce point.
Esther a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle.
Quel genre de problème?
Je suis le docteur Varava. J'appelle depuis l'Institut Sarne.
L'orphelinat n'a pas la moindre trace d'elle.
Il y a forcément une autre explication.
Je crois que maman ne m'aime pas beaucoup. Ça ne doit pas être facile d'aimer un enfant adopté autant que si c'était le vôtre.
Maman ! Pourquoi elle était dans votre hôpital ?
Je t'aime, papa.
J'en peux plus, j'en peux plus !
J'ai une surprise pour toi, maman.
Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que tu viens faire ?
Esther.
Esther. Esther, ou dit Orphan en version originale, est un film sorti en 2009, réalisé par Jome Colesera et écrit par David Leslie Johnson. Ce thriller américano-canado-germano-français, oui, ça fait beaucoup de nationalités,
un petit peu, oui,
raconte
un petit
peu. Une sombre histoire inspirée de faits réels. On suit l'histoire de Kate et John, un couple qui vient de perdre un enfant et qui décide alors d'adopter. Une fois à l'orphelinat, il tombe sous le charme de la petite Esther, une fillette de 9 ans, aux manières très distinguées, au visage d'ange et à la tenue d'une autre époque. Mais après l'avoir ramenée chez eux auprès de leurs deux autres enfants, des choses étranges se produisent ainsi que beaucoup d'accidents impliquant Esther. Et ces accidents divisent la famille. Car en effet, Kate, la maman, se pose beaucoup de questions sur sa nouvelle fille et commence à se demander si elle est vraiment normale, alors que le père est persuadé de l'innocence de la fillette. Ce qu'ils ne savent pas, et attention, spoiler alerte, c'est que Esther n'est pas une enfant, mais une adulte de 33 ans, atteinte d'une maladie hormonale, tout à fait. Et pas n'importe quel adulte, mais une échappée d'hôpital psychiatrique et une meurtrière.
C'est quoi la maladie qu'elle a ?
Alors, le nom de cette maladie, j'espère que je le prononce bien, c'est la panipopituitarisme.
J'ai fait exprès de te le faire dire.
Je me doute. Une forme de nanisme proportionné qui fait que, en grandissant, tu gardes un aspect enfantin. Comme je vous le disais plus tôt, ce film est inspiré de faits réels. En effet, une histoire très similaire est arrivée en République tchèque, où une femme fut arrêtée en 2007 pour maltraitance, suite à la découverte de ses 3 enfants enfermés et menottés à la cave. Parmi ses enfants, 2 garçons et une adolescente de 12 ans du nom de Anna, adoptée par la famille quelques mois auparavant. Les enfants sont alors placés dans des familles d'accueil, et c'est à ce moment-là qu'Anna disparaît. On découvrira alors que l'adolescente s'était présentée sous une fausse identité, et avait en réalité une 30aine d'années, et elle serait à l'origine des mauvais traitements infligés aux garçons de la famille. En effet, on avait retrouvé les garçons grâce à le bug d'un babyphone d'un voisin qui avait trouvé une image sur son téléphone de 3 jeunes gens enfermés dans la cave. Elle sera
c'est un peu glauque quand même.
Totalement,
ça.
Oh tout à fait glauque. Elle sera retrouvée quelques mois plus tard en Norvège, où elle avait de nouveau changé d'identité, se faisant passer cette fois-ci pour un jeune garçon de 13 ans, et se faisant arrêter et juger au même titre que la mère des enfants. Un sombre fait divers, certains parlent de sectes religieuses, d'autres de pédopornographie, pardon. Bref, une très sombre histoire qui sera adaptée en bande dessinée par Marek Porkoni sous le nom de L'étrange cas Barbara S., le vrai nom d'Anna. Pour en revenir au film, le film traite de nombreux sujets, et notamment du handicap. Par exemple, une des enfants du couple dans le film est atteinte de surdité, mais bien sûr, c'est surtout le handicap d'Esther qui nous intéresse en réalité. Donc comme je le disais tout à l'heure, le personnage est atteint de panipopituitarisme, une maladie hormonale qui lui donne donc cet aspect d'enfant à 30 ans passé. En réalité, cette condition empêche Esther de vivre normalement et ça la rend profondément malheureuse. Ce qui fait que l'on n'arrive pas vraiment à la détester malgré tout ce qu'elle fait, tout son comportement. On a toujours cette limite.
Un peu de compassion aussi pour
elle,
en fait. C'est
ça. On est toujours à la limite de la haïr et de la plaindre. On a un peu de compassion pour elle. Et on peut théoriser sur le fait que cette empathie pourrait être volontaire de la part du réalisateur, puisque clairement dans le film, elle est présentée comme le personnage principal. On suit ses aventures, on suit ce qu'elle fait, et on espère qu'elle ne soit pas découverte par la famille. En petits mots de fin, on peut s'attarder un petit peu sur le préquel sorti cette année, donc Esther 2, Les Origines, et qui retrace les premiers méfaits du personnage. D'ailleurs, dans ce film, l'actrice d'Esther, Isabella Fuhrman, tient encore son rôle. Vous me direz que c'est normal, mais je vous rappelle que bien que l'actrice avait 12 ans en 2009, elle en a aujourd'hui 25. Et le film se passe avant Esther premier du nom. C'est donc tout un travail de maquillage et de trompe-l'œil qu'a dû réaliser l'équipe du film pour faire passer cet adulte pour une fillette. Et de ce que j'en ai vu, c'est très réussi. Donc pour finir, si vous n'avez toujours pas vu Esther dans ce mois d'Halloween, c'est le moment idéal.
Et c'est l'occasion de se replonger donc dans Esther 1 pour voir Esther 2.
Tout à fait.
Ensuite. Merci Marie.
Merci à toi.
Quel film on présente la semaine prochaine ?
La semaine prochaine, on reste dans le thème Halloween, c'est la pièce maîtresse, puisque ça sera la fin, ça sera notre dernière émission avant la fin du mois d'octobre. On part sur un de mes films préférés, Shining.
Donc vivement mercredi prochain, comme dirait Michel Drucker. Ah non, lui, c'était dimanche. Bac FM, c'est la fin d'Action. On se retrouve à 13h pour parler du Festival du Cirque organisé par La Transverse dans les jours à venir. Et ce soir, Job, à 19h, on parle de la nouvelle formation qui est proposée au CCI de la Nièvre. Notre invité, Marie, c'est qui ?
Christophe Deramé.
Et puis, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur bacfm.fr et puis la rediff aussi à 18h. Tout de suite, le retour du son pop rock. Je vous dis à tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.